Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, rouge-brun, une couleur de saison. Bonjour Jean-Louis Amsel.
Bonjour Hervé Gardette.
Vous êtes anthropologue,
oui.
Directeur d'études à l'EHESS.
Oui.
Vous avez publié en 2014 aux éditions Ligne « Les nouveaux rouges-bruns, le racisme qui vient ». Et puis début 2017, un article pour les mêmes éditions en forme de mise à jour « Les nouveaux rouges-bruns ». Alors faut-il désormais parler des nouveaux rouges-bruns ? En tout cas, cet assortiment de couleurs redevient tendance dans les commentaires politiques à la faveur du mouvement des Gilets jaunes et des prises de position de certains de ces leaders, soupçonnés d'emprunter leur référence autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Mais à vrai dire, c'est autant vers les Gilets jaunes que vers les formations politiques qui les soutiennent que portent ces accusations de rouge-brunisme. Ainsi, plusieurs figures de la France insoumise sont-elles soupçonnées d'entretenir une forme de confusion. François Ruffin, par exemple, du fait de son hommage à Étienne Chouard, pointé du doigt pour sa proximité avec ce qu'on appelle la fachosphère. Ou dans un autre genre, Alexis Corbière, pour avoir accepté une interview dans Valeurs Actuelles. Jusqu'au coup de grâce portée par Marine Le Pen dans le même magazine lorsqu'elle évoque des convergences entre elle et Jean-Luc Mélenchon. Alors cette convergence est-elle réelle ou fantasmée ? D'aucuns agitent le spectre des années 30 du national-bolchevisme pour alerter sur les dangers de la situation politique actuelle. Comparaison assez douteuse. En revanche, l'effacement du clivage droite-gauche entamé avec l'effondrement du bloc communiste a brouillé les lignes et créé de nouveaux espaces de pensée. L'extrême droite investit la question sociale. Une partie de la gauche se frotte désormais à la question de l'identité. Oui. Rouge-brun, une couleur de saison. C'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Jean-Louis Amsel. Commençons, comme on le fait depuis quelques semaines, avec le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'est un mouvement que vous qualifieriez de rouge-brun ?
Je crois que ça serait un peu rapide, un peu péremptoire de qualifier le mouvement des rouges-bruns, le mouvement des Gilets jaunes de rouge-brun. Moi, je pense qu'il faut distinguer le mouvement des Gilets jaunes proprement dit des récupérations politiques qui en sont faites. À l'extrême gauche et à l'extrême droite surtout. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes, que je suis de près, je suis même allé les voir Place de l'Opéra le 15 décembre, je pense que c'est un mouvement protéiforme. Il y a un peu de tout là-dedans. C'est un mouvement qui, certains leaders politiques, enfin, qui a certains leaders, en tout cas, alors à sa tête, comme Éric Drouet ou bien Maxime Nicole ou Priscilla Ludowski, qui ne sont pas d'ailleurs sur les mêmes positions. Éric Drouet et Maxime Nicole auront peut-être des positions un peu rouge-brune, justement. Priscilla Ludowski, elle, s'en distingue. Je pense qu'ils sont en train d'élaborer un vocabulaire politique, des positions politiques, mais je pense pas qu'on puisse les qualifier, qualifier ce mouvement de rouge-brun.
C'est en tout cas, Jean-Louis Amsel, à la faveur de ce mouvement des Gilets jaunes que cette notion de rouge-brun est revenue dans les commentaires politiques, comme par exemple dans un éditorial de Thomas Legrand sur France Inter, c'était le 8 janvier dernier.
Le mouvement des Gilets jaunes est assurément une révolte d'une partie du peuple contre les élites. On ne peut déceler s'il penche à droite ou à gauche, même si les préoccupations sociales sont quand même, en apparence, plus présentes que les préoccupations identitaires. Dans un mouvement de contestation radicale comme celui-là, les populismes de gauche et de droite peuvent se retrouver, ils peuvent dire non et crier leur colère de concert, mais quand il s'agira de proposer des solutions et de traduire politiquement et positivement la colère jaune, eh bien il faudra choisir entre le rouge et le brun, plus question de nuance, de la couleur. Seulement voilà, si vous mélangez le rouge et le brun en politique comme en chromatique, voyez l'Italie, vous obtenez du brun.
Voilà, extrait, hein, bien sûr, c'était pas l'intégralité de l'éditorial de Thomas Legrand. Je trouvais intéressant ce qu'il dit, Jean-Louis Amsel, sur finalement l'idée d'une dilution, c'est-à-dire le rouge-brun, si on essaie de commencer à le définir, c'est quoi ? C'est le rouge qui se dilue dans le brun, c'est-à-dire en gros la gauche ou l'extrême gauche qui se dilue dans l'extrême droite.
Moi, je pense que on peut définir le rouge-brun de façon très simple, c'est la gauche du travail et la droite des valeurs. Alors ça, c'est quelque chose moi, je pense que ça ne remonte pas aux années 30. Hein. C'est plutôt dans la conjoncture de l'après-deuxième guerre mondiale qu'il faut analyser l'essor du mouvement rouge-brun, c'est-à-dire, au fond, la substitution de l'identité, de la race, et d'autres du genre aussi à une approche en termes de classe sociale. Alors je crois que c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans une problématique post et décoloniale, et puis aussi ça s'inscrit dans la conjoncture de l'après mai 68 avec la disparition des récits universalistes, le déclin du marxisme, l'essor du postmodernisme et du postcolonialisme, et donc une appréhension plutôt en termes de clivages verticaux plutôt que de clivages horizontaux de classe.
Mais est-ce que c'est un mouvement qui est unilatéral, Jean-Louis Hamsel, c'est-à-dire est-ce que c'est un mouvement qui part de la gauche et qui se rapproche de l'extrême droite, ou bien est-ce que ça peut fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire des gens qui viennent de la droite ou de la droite radicale et qui vont vers la gauche? Parce qu'on voit bien, par exemple, que depuis quelques années, et notamment ça s'est manifesté avec notamment Marine Le Pen à la tête du Front National et aujourd'hui du Rassemblement National, c'est-à-dire l'emprunt aussi de thématiques et d'un vocabulaire de gauche pour justement parler à l'électorat populaire.
Oui, mais moi je pense que c'est plutôt dans le sens gauche, extrême gauche, vers la droite et l'extrême droite, plutôt que dans le sens inverse. Parce qu'on voit bien par exemple avec Marine Le Pen, que pour ce qui concerne le mouvement des Gilets jaunes, elle refuse l'augmentation du SMIC par exemple. Et ce qui est intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on est parti de revendications économiques, notamment sur l'augmentation des taxes sur le carburant, mais aussi l'augmentation du pouvoir d'achat, la préservation des retraites, enfin toute une série de thèmes sociaux et économiques qui sont des thèmes qui sont des revendications populaires. Et puis ensuite, alors effectivement, il y a une espèce de virage vers la droite et vers l'extrême droite, avec la substitution de thèmes politiques comme le référendum d'initiative citoyen à des thèmes et des revendications proprement sociales ou économiques. Alors le référendum d'initiative citoyen, bon là effectivement, bon vous avez évoqué tout à l'heure Étienne Chouard, hein, c'est lui qui a lancé cette idée. C'est quelque chose qui, à mon avis, effectivement, est un facteur de dépolitisation.
Mais est-ce que le fait, par exemple, de rendre hommage, comme l'a fait François Ruffin, Étienne Chouard, pour avoir été porteur justement de cette idée du référendum d'initiative citoyenne, ça suffirait à accuser François Ruffin, parce qu'il faut bien dire quand rouge-brun, c'est pas quelque chose qu'on revendique en général. On accuse les autres de l'être, mais on revendique rarement pour soi-même d'appartenir à cette nébuleuse. Mais est-ce que ça suffirait à faire de François Ruffin, par exemple, un rouge-brun? Et qui incarnerait pour vous aujourd'hui, dans le domaine alors politique, on ira sur la question intellectuelle ensuite, mais dans le domaine politique, cette mouvance-là, cette tendance-là?
Alors moi, je pense que François Ruffin n'est en aucune manière un rouge-brun. Simplement, je crois qu'il faut replacer ça dans la stratégie de la France insoumise, hein, qui est une stratégie populiste et souverainiste, qui s'inspire de Chantal Mouffe, et puis aussi d'Ernesto Laclos, qui était le mari de Chantal Mouffe, qui est disparu maintenant.
Qui défend un populisme de gauche.
C'est-à-dire l'idée qu'au fond, on peut plus mobiliser sur la base des classes sociales, parce qu'il y a une fragmentation de la société, il y a toute une série de revendications de race, de genre, etc., qu'il faut fédérer. En fond, c'est un peu l'idée de Mélenchon, hein, qu'il faut fédérer pour... C'est une stratégie en quelque sorte un peu attrape-tout. Hein. Il faut rassembler tous les mécontentements, toutes les revendications, et donc substituer une problématique populiste et souverainiste. Ça, c'est très important, et on retrouve ça dans les Gilets jaunes, avec les drapeaux tricolores, avec la Marseillaise, etc. L'idée qu'il faut reprendre en main, reprendre possession de son devenir, dans le cadre, justement, de la nation, et pas du tout de l'internationalisme prolétarien. Ça, c'est fini, l'internationalisme prolétarien pour la France insoumise. Hein.
Alors, justement, si ça ne correspond pas forcément, le rouge-brunisme, à la façon dont milite François Ruffin, est-ce que ça correspond davantage, par exemple, à un Jean-Luc Mélenchon, dont on sait, par exemple, qu'il refuse aujourd'hui, en tout cas qu'il écarte la notion de gauche aujourd'hui en disant voilà, c'est un terme ne correspond plus à la réalité politique du pays.
Alors moi je trouve que refuser l'opposition gauche-droite, enfin c'est une position de droite précisément, mais je ne ferai pas pour autant de Mélenchon un rouge-brun. Mais
alors qui serait rouge-brun aujourd'hui?
Alors dans le domaine intellectuel, je pense qu'on va en parler, mais dans le domaine politique, je ne sais pas, mais en tout cas je pense qu'il y a un phénomène de rouge-brunisation. Du champ politique en général, Mais je ne pense pas que ni Corbière, ni Mélenchon, ni Ruffin soient à proprement parler des Rouges-Bruns. Mais ils s'inscrivent dans une nébuleuse, dans une configuration, dans une atmosphère rouge-brune.
J'évoquais, Jean-Louis Amsel, l'interview qu'a donnée... Alors, il y a Alexis Corbière, mais aussi Marine Le Pen à Valeurs Actuelles, dans laquelle elle évoque de possibles convergences justement entre elle et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que, pour vous... Quand elle dit ça, elle part d'une analyse assez objective de la situation, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est avant tout une forme de tactique politique pour le mettre en porte-à-faux avec une partie de la gauche et avec une partie de son électorat?
Ah, moi je crois que c'est une forme de tactique politique, parce qu'au fond, Marine Le Pen, c'est la solution ultime de la classe dominante et de la bourgeoisie. Je veux dire, bon, pour l'instant c'est Emmanuel Macron qui est aux commandes, qui est en difficulté d'ailleurs. Mais après tout, si ça marche pas avec Macron, pourquoi pas la classe dominante, la bourgeoisie pourrait très bien avoir recours à Marine Le Pen. Et au fond, moi, ce que je dirais aussi, c'est que actuellement, étant donné l'autoritarisme qui se développe au sein de l'appareil d'État, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre, disons, Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Enfin, je veux dire, ça, c'est au fond...
Ah bah on en a peut-être trouvé un, alors, à vos yeux de rouge-brun, ça serait Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon.
Je sais pas si... Je crois pas qu'il était jamais rouge, Emmanuel Macron. Non, c'est plutôt un libéral, mais... un ultralibéral peut-être, mais qui en tout cas vire à l'autoritarisme. Et là, de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a plus vraiment... On nous a incité à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen parce que en agitant un peu le spectre du fascisme. Je dis pas que Emmanuel Macron soit un fasciste. Il n'est pas un fasciste, bien sûr. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des convergences là entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, plus qu'entre Mélenchon et Marine Le Pen. Mais simplement, Marine Le Pen essaye de prendre Mélenchon à son propre jeu, parce que le jeu de Mélenchon, effectivement, est dangereux.
Alors, s'agissant de convergences, et peut-être davantage dans le domaine intellectuel, qu'on peut les voir à l'œuvre, Jean-Louis Amsel, dans votre article de mise à jour, les nouveaux rouges-bruns qui datent de début 2017, vous citez un certain nombre justement de ces intellectuels. Alors pour ne se fâcher avec personne en particulier, je vais en citer un maximum. Natacha Polony, Elisabeth Lévy, Yves Roucotte, Jacques Julliard, Caroline Fourest, Laurent Bouvet, Coralie Delhomme, Elisabeth Badinter, Régis Debray, Michel Onfray, je cite pas tous, Jean-Claude Michéa, bien entendu. Qu'est-ce qui fait d'eux, alors à des niveaux divers bien sûr, hein, mais des rouges-bruns, est-ce que c'est parce qu'ils vont sur des questions par exemple de l'identité en venant eux-mêmes de la gauche, que ça les, que ça vous autorise, en tout cas, vous, à les qualifier de rouge-brun?
Oui, alors, comme je vous l'ai dit précédemment, moi, on peut définir très, très simplement la posture rouge-brune en disant que c'est une gauche du travail et une droite des valeurs. Alors, la droite des valeurs, bon, par exemple, chez Michéa, c'est la famille, c'est les valeurs familiales. Mais moi, je pense qu'il est au fond de la dérive rouge-brune, la rouge-brunisation de la vie intellectuelle et politique, mais disons, là, on parle de la vie intellectuelle, c'est l'islamophobie. Je pense que c'est ça qui nuit un certain nombre de gens, comme on peut ajouter au nom que vous avez cité, Michel Houellebecq. Je crois que ce qui est le fondement de la rouge-brunisation de la vie intellectuelle et du clivage, justement, c'est celui qui oppose, par exemple, les laïcs du printemps républicain aux décoloniaux, aux gens qui défendent une identité musulmane, enfin la possibilité d'affirmer une identité musulmane. Et je pense que l'islamophobie est un marqueur essentiel de la rouge-brunisation de la vie intellectuelle.
Oui, on pourrait dire, Jean-Louis Amsel, que l'islamophobie est peut-être une des causes, mais tout autant que la revendication aussi d'appartenance à la communauté musulmane, qui se fonde aussi sur des revendications identitaires.
Absolument. Alors là, je suis d'accord avec vous. On peut effectivement repérer une certaine convergence. Je crois que je le dis d'ailleurs dans les articles que vous avez mentionné. Je pense que, par exemple, on peut observer une certaine convergence entre les indigènes de la République et une certaine... Je crois qu'eux aussi s'inscrivent dans une certaine configuration rouge-brune, enfin, je veux dire... Parce qu'effectivement, il y a une espèce d'identitarisme et substitution de l'identité de la race, notamment, à des oppositions de classe.
Mais est-ce que cette notion de rouge-brun, Jean-Louis Amsel, elle pose quand même pas un problème? Parce que moi, j'ai l'impression que ça part de l'idée qu'il y aurait une gauche qui serait chimiquement pure, c'est-à-dire qui n'aurait le droit de parler que de certains sujets, et que sur certains thèmes, par exemple l'identité, l'immigration, il faudrait surtout pas y aller. L'immigration, l'identité, ça peut être des questions qui sont posée par la gauche, sans pour autant qu'on puisse les soupçonner de s'extrémiser vers la droite.
Bah, c'était vers la gauche, hein. Traditionnellement, elle était plutôt internationaliste, hein, de solidarité entre de tous les opprimés existant à la surface de la planète. L'identité n'était pas non plus un thème de gauche. Il y a eu effectivement par le passé, par exemple dans le Parti communiste, des positions nationales communistes telles qu'elles pouvaient être exprimées par exemple par Georges Marchais, hein, c'est sûr. Et même le stalinisme, c'est un nationalisme aussi, hein, le socialisme en un seul pays, etc. Mais disons que les valeurs de la gauche, et notamment de la gauche française, qui est quand même une gauche universaliste, hein, disons, qui se réfère à la Révolution française. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes, pour revenir à eux, se réfèrent la symbolique du mouvement Gilets jaunes, c'est une symbolique qui vient de la Révolution française, hein, des sans-culottes, la Marseillaise, etc. Il y a même eu une figurine représentant Brigitte Macron en Marie-Antoinette, etc. Enfin, et donc, c'était plutôt une... Il faut rappeler aussi que sous la Révolution française, les étrangers étaient des citoyens au même titre que les Français. Donc, je crois que c'est ça la tradition de la gauche. Alors, l'identité, la race, etc., à mon sens, enfin, moi je me définis comme quelqu'un de gauche et même d'extrême gauche, pour moi ça ne fait pas partie de l'identité d'extrême gauche.
Alors, je le disais tout à l'heure, on se revendique rarement du rouge-brunisme, même si cette convergence, peut-être pas en ces termes-là, elle a pu être ouvertement assumée il y a quelques années par un journal, L'Idiot International, et par son fondateur Jean-Edard Nallier.
Voici une génération qu'avec véhémence et passion, je dis le contraire de ce que je pense. Voilà des années interminables que je trompe les autres pour mieux me tromper moi-même. Oui, je suis un homme de droite, un vieux sous-marin rouillé du socialisme féodal, tel que le nommait Karl Marx dans les manifestes du communisme pour définir la polémique aristocratique. C'est en réactionnaire chateaubriandesque que je suis devenu maoïste. C'est en conservateur à la mode anglaise, façon Gladstone ou Disraeli, que je me suis fait le compagnon de route du socialisme et des classes moyennes que je haïssais pourtant. C'est comme Bermanos, ou même comme l'ignoble Léon Daudet, vous savez, le célèbre atrabilaire de l'Action française, que j'ai cru rester de gauche en m'opposant à la guerre d'Irak ou à l'Europe capitaliste de Maastricht. Pour un peu, j'aurais même été le dernier homme de gauche, à l'instar de ces socialistes qui, après avoir voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, avaient changé notre carte départementale en mettant Laval à Vichy. Mon maréchal Nouvella, c'était Mitterrand.
Voilà, texte extrait de l'émission Une vie, une œuvre de France Culture consacrée à Jean-Edard Nallier. Texte de Jean-Edard Nallier lu par son frère Laurent Allier. L'Idiot International, c'est ce qui synthétisait peut-être le mieux, on va dire, les nouveaux rouge-bruns, c'est-à-dire la version contemporaine du rouge-brunisme sur Loïc Hamsel.
Oui, je pense. Moi, en écoutant, enfin, pas Jean-Edard Nallier, mais son frère lire un texte de Jean-Edard Nallier, ça me faisait penser à Alain Soral. Enfin, je trouve qu'on s'en est un peu, c'est le même confusionnisme. Hein, confusionnisme. Oui, alors je pense que effectivement, l'Idiot International a symbolisé cette volonté de rapprochement de gauchistes, parce que Jean-Edard Nallier, bon, c'est un personnage un peu atypique, enfin difficile à définir, etc. Mais il y avait Jean-Paul Cruz, par exemple, qui est un des fondateurs de Libération, qui était aussi membre de la rédaction de l'Idiot International, et c'est lui qui a préconisé le rapprochement avec le Front National à cette époque. C'était en 91 ou 92.
Voilà, il fait un appel au Front National.
Et il y avait aussi un membre du Parti communiste qui était Monsieur Cohen, qui appelait aussi au rapprochement avec le Marc Cohen, qui était fondateur du Parti communiste membre du Parti communiste français, qui voulait effectivement un rapprochement avec Alain de Benoît et avec l'extrême droite.
Mais est-ce qu'il y avait un véritable projet politique derrière ces volontés de rapprochement, ou bien est-ce que c'était avant tout presque une forme de jeu, c'est-à-dire presque avec une forme de dimension un peu artistique et nihiliste, c'est-à-dire de dire voilà, on va être absolument contre les conventions et aller contre les conventions à l'époque, de la manière la plus radicale, c'était justement de défendre ces convergences.
Oui, il y avait une espèce d'iconoclasme, vous avez raison, je pense, puis d'aristocratisme, on le sent très bien, hein, dans la posture de Jean les derniers. Je crois que ça s'inscrivait aussi dans le cadre de conflits qui étaient concernant la succession à la tête du Parti communiste français. Enfin, je veux dire, il y avait aussi des... Mais je pense que effectivement, il y a toujours eu cette tendance, même dans le Parti communiste français, il y a toujours eu cette tendance nationale communiste qui représente aussi, par exemple, par quelqu'un qu'on avait un peu oublié, un philosophe comme Michel Clouscar, hein, qui défendait aussi, lui aussi des bon les intérêts de la classe ouvrière, mais en même temps l'idée de la nation française. Donc je crois que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui se développe actuellement considérablement en liaison avec ce mouvement des Gilets jaunes, dans le cadre d'un brouillage généralisé, d'une confusion généralisée des idées et des valeurs, d'une confusion politique, idéologique et intellectuelle.
Voilà, qu'on qualifie de confusionnisme. Oui. Il y a eu un dossier d'ailleurs alors cette semaine dans le journal Libération, oui, avec notamment une interview de l'historien Pascal Horry, qui dit notamment ceci à propos finalement de ces formes de syncrétisme entre droite et gauche. Il dit c'est pas quelque chose de nouveau. À partir du milieu du 19e siècle, des voix se sont élevées pour prôner le dépassement de la distinction droite-gauche jusqu'à la fusion entre certains éléments empruntés aux deux familles. Les boulangistes des années 80, qui viennent aussi bien de la monarchie populaire que de la Commune de Paris, en sont le premier exemple évident, Jean-Louis Hamsel.
Oui, alors moi je pense que, bon, on peut toujours trouver des précédents dans l'histoire, et on peut toujours renvoyer par exemple les Gilets jaunes à la Révolution française. Moi je pense qu'il est intéressant dans les Gilets jaunes, c'est leur symbolique, le fait qu'ils se réfèrent à la Révolution française. Est-ce qu'on peut comparer les sans-culottes aux Gilets jaunes? Je suis pas absolument sûr. Est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe actuellement aux boulangistes? Moi je pense que c'est dangereux de faire des Gilets jaunes des fascistes. Enfin, en tout cas,
c'est pas ce que dit Pascal Horry.
Non, je sais bien, mais il y a cette idée chez certains ténors de la gauche radicale les Gilets jaunes ouvriraient la voie au fascisme. Il y en a d'autres qui disent.
Oui, vous disiez au début de l'émission, les années 30, c'est pas une référence pertinente.
Non, pas du tout. Moi, je pense que un personnage comme Dieudonné, par exemple, qui est métisse, qui a eu une période anti-impérialiste, et qui est devenu un fasciste antisémite, je pense que c'est quelque chose d'inimaginable dans les années 30. Ça s'explique très bien dans la conjoncture postcoloniale ou décoloniale actuelle, mais je ne pense pas que ça aurait pu exister dans les années 30. Donc je pense qu'il faut pas, je pense que les références historiques sont dangereuses. Il y a des références, il y a un symbolisme des Gilets jaunes qui renvoie à la Révolution française. Moi je pense qu'il faut pas faire de ce mouvement un mouvement fasciste ou qui ouvrirait la voie au fascisme. Je pense qu'aussi, certains dans la gauche radicale prétendent que ça n'est pas un mouvement populaire, que c'est un mouvement petit bourgeois, un peu analogue au bonnet rouge qu'on a connu en Bretagne. Moi, je pense que c'est vraiment un mouvement populaire. Parce que quand les gens disent que le 10 du mois, ils n'ont plus d'argent, enfin, ils sont à court d'argent, je pense que ça prouve bien que c'est un mouvement populaire.
Alors, s'il faut se méfier des références historiques, peut-être peut-on s'aventurer sur les comparaisons géographiques. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Quand on parle de rouge-brun aujourd'hui, on a ce qui pourrait peut-être constituer un exemple à côté de chez nous, c'est l'Italie. À ce sujet, vous avez interrogé l'historienne Marianne Matar-Bonucci.
Oui, Marianne Matar-Bonucci, qui est une spécialiste donc de l'Italie et de l'étude en particulier du fascisme en Italie. Je l'ai interrogée d'abord pour éclaircir avec elle un point historique. Dans l'histoire de ce pays, on décrit le fascisme comme un régime d'extrême droite, mais venu en partie de la gauche et soucieux de fait d'inclure des questions sociales dans son programme. Alors, est-ce que pour autant le terme rouge-brun peut s'appliquer rétrospectivement à ce régime? On écoute sa réponse.
Avant la prise du pouvoir, donc qui se développe entre 1919 et 22, il y a effectivement certaines aspirations sociales et des hommes, à commencer par Mussolini lui-même, qui viennent du syndicalisme révolutionnaire et qui sont porteurs de ces aspirations. Mais très vite, il ne faut pas oublier cela, le fascisme devient surtout une forme de milice qui lutte contre la gauche, contre les socialistes, contre les communistes. Et c'est en partie parce que le fascisme a ce rôle, justement, de milice anticommuniste, qu'ils vont arriver au pouvoir avec le soutien d'une partie de la classe dirigeante. Donc, parler de rouge-brun ou de rouge-noir, puisque le noir est la couleur des fascistes, semble vraiment abusif.
Et dans l'actualité, l'Italie connaît bel et bien une alliance entre des extrêmes avec le gouvernement d'union, Ligue du Nord, Mouvement 5 étoiles. Cette union était-elle attendue dans la société? Y avait-il en Italie des personnalités, des intellectuels qui appelaient à une convergence entre ces extrêmes? On l'écoute.
Non, la réponse est non, parce que d'une certaine façon, aussi bien la Lega que les 5 étoiles ont trahi une partie de leur électorat en faisant cette alliance. Il faut savoir que dans le contexte de la campagne électorale, la Lega a été alliée donc avec la droite et ceux qui sont une partie des héritiers directs du fascisme, donc Fratelli d'Italia, et disait pique-pendre des 5 étoiles et vice-versa. Hein. Donc cette alliance a pu apparaître comme étant, au moment où elle est intervenue, une forme d'alliance peut-être pas contre nature, mais en tout cas de la carpe et du lapin, hein, vraiment de deux sujets politiques tout à fait différents. Et bon, elle est intervenue parce que chacun cherchait un intérêt politique de court terme.
Une décision politique de court terme donc qui semble tourner aujourd'hui à l'avantage exclusif de la Ligue du Nord et de son chef Matteo Salvini.
L'alliance pour le moment se fait quasi exclusivement à son profit parce qu'il est très bon politique, parce qu'il a un charisme indéniable et qu'il est en train de multiplier donc oui les signes d'ouverture en direction d'une opinion populiste qui est inquiète de l'immigration et en direction de la droite.
Voilà l'historienne Marianne Matar-Bonucci, spécialiste de l'Italie et professeure à Paris 8.
Jean-Louis Hamsel, quelles sont selon vous les possibilités d'une convergence entre un mouvement populaire, alors qui n'a pas d'équivalent pour l'instant aujourd'hui en France, comme celui du mouvement 5 étoiles, et puis la Ligue, qui elle peut être tout à fait assez facilement comparée au Rassemblement National?
Moi je ne pense pas qu'il y ait de possibilités de convergence entre... Alors, il y a une certaine incertitude idéologique concernant la France insoumise, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'alliance entre la France insoumise et le Rassemblement national. Ça me semble complètement exclu.
Quelle serait la ligne rouge qui ferait que cette convergence ne soit pas possible? La question de l'immigration, par exemple.
La question de, encore que bon, la France insoumise soit, en tout cas Mélenchon soit pas très clair là-dessus, mais je pense pas qu'il puisse y avoir. Non, je pense qu'il se renierait complètement, il se grillerait complètement en nouant une alliance avec le Rassemblement national. Je ne pense pas qu'il y ait de possibilités de ce côté-là. Alors, il y a effectivement le Rassemblement national ratisse large avec, ratisse avec Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, etc. Mais je ne pense pas que ça puisse aller très loin en direction de la gauche et de l'extrême gauche, ni en direction du Parti Socialiste, ni en direction de la France Insoumise, ni en direction du Parti Communiste Français. Je ne pense pas qu'on puisse assister à cela. Mais le problème, c'est les positions politiques qui sont brouillées à l'intérieur de chacune de ces formations. Quoi.
Alors justement, dernière question, le meilleur antidote au rouge-brunisme, ce serait quoi? Ça serait de refaire des clivages nets entre la droite et la gauche?
Entre la droite et la gauche et entre les classes sociales. Et je pense qu'il faut être présent au sein du mouvement des Gilets jaunes, justement, pour éviter que ce mouvement soit tiré du côté de l'extrême droite, du confusionnisme et de la rouge-brunisation.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Louis Hamsel, d'avoir participé à ce nouveau numéro de Politique. Alors, je renvoie à votre ouvrage consacré aux rouges-bruns, les nouveaux rouges-bruns, le racisme qui vient, c'était aux éditions Ligne en 2014. Et puis, votre dernier livre, coécrit avec Souleymane Bachir Adiane, En quête d'Afrique. Le titre exact, d'ailleurs, c'est un peu plus long que ça.
L'universalisme et pensée décoloniale.
Voilà, et ça a été publié il y a quelques mois de cela aux éditions Albin Michel. Voilà, merci beaucoup. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisé par Peyre Le Gras, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. Voilà, je vous retrouve lundi à 18h20 pour du grain à moudre. On se demandera si les gouvernements populistes font du bien à l'économie. À 12h45, ce sera la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau. Et dans un instant, le journal de 12h30 sur France Culture.